Merci Alain, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette très belle journée, cette journée qui s'annonce très riche, et merci pour m'y avoir invité. Le 10 décembre 2013, lors des funérailles de Nelson Mandela, le président américain Barack Obama s'est fait remarquer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous rappeler l'épisode des selfies pris avec la première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt, qui avait fortement déplu à Michel Obama. Mais il s'est fait remarquer parce qu'il a salué Nelson Mandela comme ayant été l'homme de l'Ubuntu. Un mot, a-t-il déclaré, qui incarne le plus grand don de Mandela, celui d'avoir reconnu que nous sommes tous unis par des liens invisibles, que l'humanité repose sur un même fondement et que nous nous réalisons en donnant de nous-mêmes aux autres et en veillant à leurs besoins. L'Ubuntu, qu'est-ce vraiment ? Dans son essai « Mandela, une philosophie en acte », Jean-Paul Jouhari explique que ce mot que l'on pourrait traduire par « je suis parce que nous sommes », sorte de cogito social finalement, invite en toutes circonstances à privilégier l'intérêt commun sur celui de sa seule individualité, mais aussi à chercher toujours à s'identifier aux autres, y compris à leurs sentiments hostiles, pour régler sa propre vie. Ce principe, écrit-il, pose en effet l'essence sociale de toute personne individuelle, comme Platon au début de la République, Aristote dans la politique, l'homme est un animal politique, Épicure dans sa lettre à Ménécée, puisque la sagesse qui hiérarchise les désirs pour atteindre le bonheur personnel passe aussi par l'honnêteté et la justice, sans oublier Spinoza qui, dans son éthique, démontre que, pour atteindre le bonheur, rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme guidé par la raison. Mais quand il s'est agi d'Afrique, allez savoir pourquoi, on a déduit de cette idée de la primauté du social sur l'individuel la non-existence des individus au sein des sociétés africaines. Et donc, si l'individu n'existe pas, la philosophie, comme pratique autoréflexive de la raison, ne peut s'y épanouir. De fait, l'on peut fréquemment lire dans des ouvrages ethnologiques ou anthropologiques que l'individu dans les sociétés africaines traditionnelles n'existe pas. Et c'est là d'ailleurs, selon Lévi-Brulle, l'un des critères de la primitivité, la fameuse mentalité primitive. Les sociétés africaines sont donc en quelque sorte par nature totalisante, voire totalitaire, ce qui est pratique pour justifier une entreprise coloniale, si tant est que l'on soit convaincu de son prétendu objectif humanitaire et démocratique. Certains lecteurs africains diront, eux, que par nature les sociétés africaines sont communautaires, et donc socialistes, et opposées à l'individualisme capitaliste. Mais ce qui est en jeu, en fait, c'est la possibilité même pour un individu de se construire, de se penser en tant qu'être humain, c'est-à-dire comme sujet agissant, libre et responsable au sein d'une société. Revenons à l'Ubuntu. Cette notion nous rappelle donc l'essence sociale de l'individualité humaine, mais pas seulement. Elle implique le respect de l'humanité d'autrui, en ce qu'elle pose la valeur irréductible de la vie humaine. Elle induit une éthique qui repose sur la prééminence de la réparation et de la compréhension sur la punition. Ce qui très concrètement suppose, lors de la gestion d'un conflit, la recherche permanente de la conciliation et le refus de la vengeance. En cela, la politique de Nelson Mandela aura été un exemple parfait, ainsi que l'a démontré Jean-Paul Jouhari dans l'essai cité précédemment. Madiba avait compris qu'il ne pourrait fonder une société post-apartheid juste sans y associer les anciens bourreaux. Soigner la société, c'est soigner les victimes, mais c'est aussi soigner les bourreaux d'eux-mêmes. L'on retrouve cette idée dans différentes formes de justice africaine traditionnelle, comme les gachacha au Rwanda, où au lendemain du génocide, la parole a joué un rôle central. Par le récit des faits et des actes, elle visait à faciliter l'identification à la souffrance des victimes en provoquant la honte de ceux qui l'ont causée. Il s'agissait de recréer les bases d'une société pacifiée, sans effacer les crimes de la mémoire ni enterrer le souci de vérité, mais en développant les conditions d'une citoyenneté active qui se sera débarrassée autant que faire se peut du sentiment de vengeance et dont aura besoin la construction d'une véritable démocratie. C'est ce que le philosophe camerounais Jean-Godefroy Bidima a théorisé dans son essai « La palabre, une juridiction de la parole », où il explique que dans la palabre, les droits de la communauté ne supplantent pas ceux de l'individu, même si la justice a une fonction cathartique qui consiste en la guérison du collectif et de l'individuel. Elle cherche à réhabiliter l'autre, victime ou coupable, et à le reconnaître en tant que tel, comme membre à part de la société. On retrouve là ce qu'implique la notion d'Ubuntu. À la logique d'indemnisation, renvoyant à une justice distributive qui cherche à compenser de manière arithmétique et dans un rapport marchand le tort subi, on paye sa dette à la société, s'oppose la logique de réparation reposant sur une logique asymétrique qui appréhende le futur et cherche à rafistoler le lien rompu. Est-ce là finalement si différent de ce qu'écrit Paul Ricoeur dans le juste, sur le juste, lorsqu'il explique que la réparation du lien social brisé n'est pas envisageable sans la reconnaissance mutuelle. À la fin du procès, le gagnant doit être capable de toujours reconnaître le perdant comme sujet de droit. Ce dernier, quant à lui, doit reconnaître que la sentence n'est pas un acte de violence fait à son égard, mais de reconnaissance. Il s'agit de réhabiliter l'autre et de rétablir chacun dans l'estime publique et l'estime de soi. La justice doit veiller à ce que l'honneur de la victime, mais aussi celui de la partie perdante, soit préservé. L'importance de ce cogito social a fait dire parfois à certains philosophes africains que le cogito cartésien, le fameux « je pense, donc je suis », ne pouvait faire sens en Afrique, voire était intraduisible dans les langues africaines, soulevant là le problème des intraduisibles en philosophie et la question de la possibilité de philosopher en langues africaines. Le philosophe ghanéen Kwasi Wiredu, dont Souleymane Bachir Diagne nous a dit deux mots en début de colloque, s'est longuement penché sur cette question et a tenu à réhabiliter les langues africaines. Contrairement à une certaine approche coloniale, comme avec Temples, ou à certaines approches africaines qui cherchaient une philosophie ethnique dans une langue, dégagée par exemple la philosophie du peuple bantou dans la langue bantou, il s'agit avec Wiredu de philosopher, ce qui ne signifie pas nécessairement écrire, dans ces mêmes langues, afin de produire une philosophie qui s'organise autour de catégories considérées comme africaines et de concepts qui n'existent pas dans la pensée européenne. Pour Wiredu, la décolonisation conceptuelle s'entend en partie comme une opération déconstructive des concepts classiques des philosophies occidentales qui doit aboutir à la synthèse des philosophies traditionnelles et modernes afin de forger une philosophie adéquate au monde contemporain. Il s'agit de distinguer parmi les concepts et les dualismes conceptuels occidentaux, en testant leur validité, ceux qui sont universels et ne dépendent ni d'une langue ni d'une culture, Wiredu les qualifie de considérations indépendantes, de ceux qui, au contraire, sont particuliers et propres à une langue. Il entend ainsi démasquer les faux universalismes en interrogeant la possibilité de la traduction des concepts occidentaux dans les langues africaines et s'inscrit ainsi dans les traditions philosophiques, analytiques et pragmatiques. Certains problèmes dépendent de la langue utilisée, n'ont de sens qu'à l'intérieur d'une langue particulière, dit-il, ce qui laisse entendre que certains problèmes philosophiques sont en fait des problèmes linguistiques. Ainsi, selon Wiredu, la langue à Caen invalide-t-elle la théorie de la vérité comme correspondance ? En exprimant par la même expression ce qui est et ce qui est vrai, la langue à Caen ne peut pas conduire, nous dit le philosophe ghanéen, à une théorie de la vérité comme correspondance qui fasse sens, car elle serait tautologique. Il s'agit là d'un problème philosophique authentique, uniquement dans la langue anglaise et dans les langues qui lui sont apparentées. La traduction fonctionne comme un révélateur en ce qu'elle met en relief la logique d'un texte et l'étrangeté de certains sens en mots. Elle souligne et clarifie. Traduire, c'est interpréter, déjà philosopher, c'est produire un nouveau texte. Le philosophe traducteur est aussi un herméneute, l'expérience de la limite, de la négativité première du langage que fait le traducteur l'oblige non plus à rapporter, mais à parler, à chercher des solutions aux intraduisibles, à ruser, à produire un métadiscours de justification ou alors à inventer de nouveaux mots. Sur ce modèle, Felwyn Sarr invite dans son dernier essai Afrotopia à explorer d'autres concepts issus de cultures africaines, comme ceux de Jom, dignité, Teranga, hospitalité, Kersa, pudeur, scrupule, Dungor, sens de l'honneur, Diminigo, engagement vers la communauté, etc., afin de penser le vivre ensemble. Comprise comme terre d'accueil, qui joue de manière autre et nouvelle ce qu'elle réceptionne, comme l'épistémé occidentale, ce qu'on appelle de manière lâche la philosophie africaine se construit alors comme rencontre et création, comme détour, le moment où d'autres philosophies sont déviées de leur trajectoire initiale afin de les renouveler. Elle se multiplie et se fragmente de la sorte. Elle se kaléidoscope, si vous m'autorisez ce néologisme. Effet de miroirs inépuisables, les philosophies occidentales et africaines se renvoient les unes aux autres. Les philosophies africaines opèrent des déterritorialisations et reterritorialisations de philosophies et de concepts qui leur sont étrangers. Elles deviennent des philosophies de la traversée, ainsi que le conçoit Bidima, c'est-à-dire des pensées qui se refusent, je le cite, aussi bien au repli identitaire, névrotique et revendicatif, qu'à une dissolution dans un universalisme coagulant. La traversée est ce concept qui contourne le piège de la question de l'universalité ou de la particularité de la philosophie africaine et qui permet de la penser autrement, comme tradition philosophique, en ce qu'elle valorise non pas tant le donné que le mouvement. Elle est une pratique, une attitude face au réel, l'envie d'y déceler le multiple et le divers, de percevoir le potentiel et le non encore exprimé, de démêler le confus et le non-dit. Le monde du philosophe occidental ne se réduit plus à l'Occident, mais toute l'humanité, à des degrés divers, selon des modes différents, y est impliquée. Si philosopher, c'est apprendre à mourir ainsi que l'enseigne Socrate, c'est-à-dire apprendre à dépasser le moi partial et partiel que nous sommes, à nous défaire de nos préjugés et à nous délivrer de notre vision étriquée pour nous diriger vers l'universalité de l'homme, la raison universelle, alors nous pouvons admettre que penser la philosophie africaine, penser avec les philosophes africains, c'est aussi nous penser et penser ensemble le monde dans lequel nous sommes tous engagés. La philosophie doit être cette ouverture à l'autre. Penser la philosophie africaine devient une manière de nous penser et d'apprendre à nous connaître nous-mêmes à travers le regard de l'autre. Pensées africaines et occidentales sont ainsi engagées dans un jeu de miroirs kaléidoscopiques fournissant des lieux de rencontre où s'entremêlent les images, les reflets de soi et de l'autre. Cette croisée des perspectives et cette fragmentation des regards permettent de pratiquer la rencontre dans ce qu'elle a de plus inattendu, lorsqu'elle nous dépouille de ce que nous sommes pour nous révéler à nous-mêmes. Penser la philosophie africaine, c'est d'une manière nous penser, ai-je dit. C'est penser l'homme dans son inscription au monde, en appréhendant la philosophie telle qu'elle se pratique et se vit en Afrique, telle que les philosophes africains l'éprouvent. Le penseur occidental est amené à pratiquer un exercice d'autoréflexion qui lui permet, à rebours, de comprendre les limites et la particularité de l'activité philosophique au sein de sa propre culture. Parce que l'histoire de l'Afrique depuis des siècles est intimement liée à celle de l'Occident, des échanges, des rencontres intellectuelles ont modifié les modes traditionnels de vie et de pensée. Mais surtout parce que nous sommes au sein même de l'humain, de communes préoccupations demeurent. Le concept de traversée nous suggère que le philosophe peut être ce nomade qui erre de lieu en lieu. Errer, ce n'est pas nécessairement se tromper et divaguer. C'est aussi la possibilité de traverser des réalités différentes, d'accepter l'imprévisible et le non encore, parce que justement, l'on refuse de marcher sur un chemin tracé d'avance et d'y être entravé. Pratiquer la philosophie comme errance, c'est appréhender la pensée comme cheminement à la rencontre de soi par l'autre, à la rencontre de l'autre par la médiation de soi, ainsi que nous invite Jacques Nanema. Philosopher, poursuit le philosophe burkinabé, c'est non se recroqueviller sur soi, sur son groupe culturel, sur les idoles du jour ou de la nuit de l'époque dans laquelle on vit, mais s'ouvrir au monde, au sens physique et social du terme, s'exposer à l'altérité pour grandir d'elle. L'Europe, l'Occident, n'ont pas toujours été capables d'une telle ouverture. Gageons qu'ils puissent le devenir et qu'ils puissent extraire de monologues incessants avec eux-mêmes, sans quoi leurs pensées se scléroseront et se figeront. Si l'absence de la philosophie africaine et d'autres pensées au sein de l'institution philosophique française devait perdurer, il est à craindre alors qu'une certaine France ne parvienne à se dégager de son complexe de civilisation. Considérer que l'on n'a rien à apprendre de l'autre, mais qu'au contraire, l'on a tout à lui enseigner est une manière de poursuivre la mission civilisatrice de la colonisation. Comprise comme pratique de l'errance et de la rencontre, comme recherche de soi à travers l'altérité, la philosophie peut devenir l'activité qui permette de sortir de ses préjugés et de dépasser l'autosatisfaction et l'autocélébration. Qui sait aujourd'hui en France que dès ce qu'on a appelé la période axumique, c'est-à-dire la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, jusqu'à la fin du VIIe siècle, l'on traduisait Aristote en Éthiopie. Aristote, que l'on traduisait et débattait également à Tombouctou entre le XIIIe et le XVIe siècle. Qui sait aujourd'hui en France qu'au moment où Descartes publie le discours de la méthode en 1637, un Éthiopien, Zera Yacob, écrit un traité de philosophie rationaliste, Atata, qui défend l'importance de la raison dans tout jugement et qu'il publiera en 1667. Nos enfants n'ont-ils pas le droit de l'apprendre dans leur classe et leurs cours de philosophie ? Je vous remercie.
Merci Séverine Kodjo-Granvaux pour ce plaidoyer sur cette philosophie africaine. Cette Afrique, il faut penser avec le monde. Cette Afrique, que vous avez bien rappelé, la non-existence justement de l'individu au sein des sociétés africaines traditionnelles. L'éloge aussi que vous avez pu faire de la politique de Nelson Mandela. On a remarqué aussi que cette politique de la juridiction de la parole ou de la palabre qui a été mise en place, par exemple, après le génocide du Rwanda pour avoir des éléments de règlement des conflits africains par les Africains, par la justice africaine, parce que parfois même dans la justice, le droit en tant que tel français peut couver des réalités qui ne sont pas forcément applicables à nos sociétés africaines. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous proposez de penser avec les philosophes africains, parce que penser avec eux, c'est nous penser nous-mêmes. Une belle parole pour l'Occident. Et je suis heureux aussi qu'on puisse évoquer les jeunes pousses de la philosophie, comme le jeune Sénégalais Felin Sarr, que j'aime très bien, qui vient de publier un essai vraiment remarquable. Et j'ai eu le privilège de lui dire, voilà, Achille Mbembe peut dormir tranquille, la relève est en train de venir avec les Felin Sarr. Je vous avais promis que nous penserions aussi au cerveau, un peu plus, au ventre un peu plus loin, puisque Célestin Monga ne sera pas très loin de cette philosophie qui anime ce premier panel, puisque Célestin Monga, qui est avec nous ici, mène de front des carrières de haut fonctionnaire international à la Banque mondiale, Nations Unies. Il est enseignant à côté aussi, Paris 1, la Sorbonne, mais aussi à Pékin, du côté de la Chine, là-bas. C'est un intellectuel, un écrivain. Il occupe actuellement les fonctions de directeur adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et il est l'auteur d'une œuvre très variée, étudiée dans les universités à travers le monde et traduite dans diverses langues. Il a dirigé en 2015 les deux volumes de Oxford Handbook of Africa and Economics, monumentale somme à laquelle ont collaboré les prix Nobel Joseph Stiglitz et Roger Mierson, ainsi que des économistes de renom comme Jeffrey Sachs ou Paul Collier ou François Bourguignon ou encore Kosik Basso. Son ouvrage que j'aime beaucoup, Nihilisme et négritude, est paru en français dans une trilogie aux éditions Presse universitaire de France et a été publié récemment en chinois par Peking University Press et sortira bientôt d'ailleurs en anglais en septembre chez Harvard University. Aujourd'hui, il se propose de nous parler d'un sujet intéressant, penser une Afrique affamée. Justement, vous n'avez pas encore faim, mais vous pouvez penser à cette Afrique maintenant qu'on va entendre Célestin Monga. Merci. Merci.